manche. Et après, j'ai évolué en tant qu'apprenti moniteur. Et après, j'ai été moniteur. Et après, on va se déplacer. C'est là que je vais intégrer la chorale. Et j'ai évolué à la chorale. J'ai chanté la voix basse. Et à la chorale, on va m'intégrer dans l'équipe d'intercession de la chorale. Et après, on va m'intégrer dans l'équipe d'évangélisation de la chorale. Donc, c'est ce qu'il faut peut-être savoir sur moi. Et je vais donner un principe. J'aimerais que vous réagissiez avec moi, mais pas en commentant, mais en disant simplement Amen. Je pourrais dire Alléluia. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Parce que quand vous dites Amen, vous recevez la parole. Et c'est ça, en fait, la force. Une parole peut être relâchée, mais quand vous ne dites pas Amen, voilà. Mais quand vous dites Amen, vous recevez cette parole. Recevoir du grec lambano, je reçois, je saisis cela, vous voyez. Donc, c'est important. J'aimerais que nous soyons d'abord d'accord sur un sujet, c'est que parmi les caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Quand nous disons que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il a l'omniscience, c'est-à-dire il connaît tout, il sait tout, Dieu connaît tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu connaît tout. Quand j'ai dit que Dieu connaît tout, c'est-à-dire il connaît et tes problèmes et tes désirs, il connaît et tes projets, Dieu connaît tout, parce qu'il est Dieu. Et c'est ce qui fait de lui Dieu, c'est parce qu'il connaît tout. S'il ne connaissait pas tout, on n'allait pas l'appeler Dieu. Ainsi, pour être appelé Dieu, il faut avoir déjà cette caractéristique, c'est d'être omniscient. Deuxièmement, être omnipotent, c'est-à-dire avoir la toute-puissance, comme nous venons de le chanter. Dieu a la toute-puissance. Et troisièmement, c'est l'omniprésence. Et l'omniprésence va de pair avec l'omniscience parce que pour savoir tout, il faut être partout. Et alors, j'aimerais dire aussi à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu est partout. Partout où tu marches, partout où tu vas, sache que Dieu est là. Je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore pris les textes. J'aimerais juste faire cette introduction pour que nous puissions nous comprendre suite à ce que je vais dire après. Alors, ce qu'il faut savoir encore de Dieu, c'est qu'on ne peut maîtriser Dieu à 100%. Personne ne peut dire que je comprends Dieu à 100%. Parce que si tu comprends Dieu à 100%, c'est que tu es Dieu. Personne ne peut dire qu'il connaît Israël plus qu'Israël, parce que je peux me connaître moi-même à 100%. D'ailleurs, moi-même, je ne me connais pas à 100%. C'est Dieu qui me connaît mieux que moi-même. Alors, pour connaître Dieu, il faut simplement être Dieu pour lui connaître à 100%. Mais nous le connaissons, mais en partie. Voilà pourquoi Paul dit nous connaissons en partie. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, nous nous battons sur des sujets qui n'ont pas vraiment la raison d'être, parce que nous voulons connaître la nature de Dieu à 100%, alors que c'est la nature de Dieu qui est mystérieuse, qui fait que Dieu soit Dieu dans la vie des hommes. Alors, ce qu'il faut savoir pour quelqu'un qui se pose la question, par exemple, Dieu, qui a créé Dieu, il vient d'où? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est comment? J'aimerais te dire, arrête de te poser ces questions. Crois simplement et comprends que ce qui fait de Dieu Dieu, c'est que ce que toi tu ne sais pas de lui, c'est ce qui fait de lui Dieu. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est éternel. Alors, étant donné que mon Dieu est éternel, nous avons dit qu'il est omnipotent et il est omniprésent. Étant donné qu'il est éternel et qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin, c'est-à-dire le Dieu qui a travaillé avec Moïse, le Dieu qui a travaillé avec Élie, c'est le même Dieu qui travaille en ces temps. Alors, nous allons lire notre texte de base. C'est dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 18. Moïse, je ne sais pas, j'aurais besoin d'eau parce que. Merci. Nous lisons, si on pourra afficher aussi. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'aimerais préciser quelque chose à mon sujet. C'est que ne vous fiez pas à mon apparence, je suis très jeune. J'ai eu mon bac en 2019. Donc, vous voyez un peu, je suis en année de remise à niveau et je cherche un stage d'ailleurs. Donc, j'ai fait ma demande. Qui pourra m'aider? Dans ces textes, on nous parle de miracles. En fait, mon thème est basé sur les miracles et les saluts. C'est quoi les miracles? J'ai vu dans les dictionnaires, j'ai fait simple. On dit que c'est l'acte de la puissance divine contraire aux lois connues de la nature. Et moi, j'ai défini les miracles comme étant l'agir de Dieu d'une manière hors norme. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne comprend pas comment ça a pu se passer, mais ça s'est passé. Et c'est la main de Dieu, c'est l'agir de Dieu qui était derrière. Et là, nous parlons de miracle. C'est quoi le salut? Le salut vient du terme grec sozo, être sauvé, être libéré, être délivré. C'est la libération, la délivrance au péché et l'obtention de la vie éternelle. Quand je parlerai du salut pendant mon temps de prédication, vous allez comprendre que c'est le fait d'être sauvé, d'être libéré, d'être délivré du péché et l'obtention de la vie éternelle. Alors, dans son omnipotence, Dieu a créé le monde. Nous pouvons le voir dans Romains 1, 20, il est dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et on peut le voir encore dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu a créé toutes choses. Malgré diverses théories que nous pouvons avoir, ce que tu dois savoir, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons comprendre Dieu à 100%. Et même ses œuvres, nous ne les comprendrons jamais à 100%. Même les apôtres, à un moment, n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais comment dans la maison de Corneille, un païen, il y a les dons du Saint-Esprit? Ils n'ont pas compris l'agir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître à 100%. Ainsi, même dans les mystères de la création, comment les choses ont commencé, il est difficile que je vous explique de A à Z comment cela a pu se passer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu a créé toutes choses. Et dans ces choses que Dieu a créées, 1 Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous révèle quelque chose. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce que vous pouvez remarquer dans ces textes, c'est qu'on nous dit que Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Je suis toujours dans mon texte de base, je sais. Les choses invisibles et les choses visibles. Les choses visibles, c'est ce que je vois. Là, maintenant, je te vois, mon frère, tu es une création de Dieu. Quand je vois les arbres, ce sont des créations de Dieu. Mais il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Je ne parle pas des microbes et ils sont visibles à l'œil nu. Mais je suis en train de parler des êtres qu'on ne voit pas, qu'on appelle des esprits. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les esprits existent. Pourquoi je parle ainsi? Nous allons les voir tout à l'heure. Et l'une des grandes erreurs de l'homme, c'est d'ignorer la présence des esprits parmi les hommes. Ne faites jamais cette erreur d'ignorer, parce que nous avons les anges et nous avons les démons. Ils sont là. Et il y a un proverbe en lingala, ma langue, qui dit « Muto abatamia lekio namayele », c'est-à-dire « Celui qui est caché a une longueur d'avance sur celui qui ne l'est pas ». Donc l'esprit, comme nous ne les voyons pas, et comme ils savent nous voir, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous. Et alors, ça serait un danger de ne pas comprendre que les esprits existent. J'aimerais dire à quelqu'un, j'insiste parce que je sens apparemment qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Est-ce que ça existe, tout ça, ces histoires ?» J'aimerais dire à quelqu'un réellement, les esprits existent réellement. Et alors, pourquoi je parle ainsi? Parce que dans les passages que nous venons de lire, on nous dit que pour les chrétiens, il y a des miracles qui accompagneront ces chrétiens. Entre autres, ils chasseront le démon. Et nous allons savoir un peu c'est qui un démon et pourquoi les chasser. Parce que nous parlons des miracles, ces miracles-là, et le salut. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 nous dit « Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde est dirigé par les diables. Mais si je pourrais arranger mon terme, je dirais il est sous la puissance du malin. C'est-à-dire tous ces systèmes que nous pouvons voir dans le monde, il y a toujours un soubassement du diable. Voilà pourquoi vous allez voir, il va tenter Jésus, il va lui dire « Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. » Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a cette puissance-là. Et étant donné que le diable a la main sur le monde, sachez que ces anges aussi sont là parce que leur maître a la puissance sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui agissent, il y a des démons qui travaillent. Ce que vous devez savoir, c'est que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit ayant une âme et habitant dans un corps. Je répète, l'homme est tripartite. L'homme est un esprit ayant une âme et habitant dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe visible. Partie matérielle, c'est la partie que nous appelons l'homme extérieur. Et l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions de l'homme. Et l'esprit, c'est le siège de la puissance intellectuelle et morale de l'homme, partie de l'homme par laquelle il a la connaissance de Dieu. Et l'âme et l'esprit constituent l'homme intérieur. Donc, quand nous parlons de l'âme et de l'esprit, c'est l'homme intérieur. L'âme est le siège des sentiments, des émotions. Et l'esprit, c'est là où nous captons Dieu. C'est là où le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que l'Esprit est attaché. C'est là qu'il y a ouverture avec d'autres esprits. Alors, les démons sont des anges déchus, entraînés par Satan et restant sous son autorité. Ils sont autrement appelés les esprits impurs. Ils sont aussi appelés les esprits malfaisants. Ce sont les anges du diable, en fait. Les démons collaborent avec la chair. Et je ne vais pas expliquer la chair, c'est quoi. On va passer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le royaume de Satan est organisé de manière à ce qu'il y ait une certaine hiérarchie. Le diable ne fait pas les choses en désordre. Vous allez le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, où il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Et certains théologiens essayent de mettre en ordre ces différentes principautés. Parce que là, on nous cite les principautés qui existent dans le royaume des ténèbres. Il y a des dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ces mondes, il y a les esprits méchants. Tout ça, ça existe. Et Jésus va venir dire lui-même dans Matthieu chapitre 12, les versets 25 à 26. Il dit, la Bible dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? » Parce que le royaume de Satan est en ordre. C'est-à-dire les démons collaborent entre eux. Ils ont une mauvaise union en quelque sorte, une union pour nuire les gens. Je voudrais dire à quelqu'un, si toi peut-être, je ne sais pas, à un jeune ou à quelqu'un, tu as l'habitude de faire une certaine union avec tes amis pour simplement nuire aux autres, attention, là, tu es en train de faire ce que les démons font. Mais tu n'es pas un démon, toi tu es une créature de Dieu et tu es enfant de Dieu, bien sûr. Alors, les démons ont pour rôle, ils sont destinés à nuire, comme je l'ai dit, nous éloigner de Dieu et nous entraîner en enfer. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, je l'ai dit ici tantôt, que le monde invisible, c'est Dieu qui a eu à créer cela. Alors, l'enfer aussi a été créé par Dieu. Si Satan existe, sachez que l'enfer existe. Et alors, étant donné que l'enfer existe, on se poserait la question, mais pourquoi Dieu voudrait que nous puissions aller en enfer? Mais Jésus va nous faire découvrir que l'enfer n'a pas été créé pour nous, mais l'enfer a été créé pour ses démons et Satan. Maintenant, Satan et ses anges ont pour mission de me prendre, toi et moi, pour que nous puissions les suivre dans leur réservation. En fait, le diable et Satan, ils ont déjà une réservation pour l'enfer. Maintenant, ils veulent nous induire et nous conduire à cela. C'est ça le rôle des démons. Voyez-vous ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Ok, vous allez comprendre là où je suis en train d'aller. Par contre, Moïse, je ne vois pas bien la montre, je ne sais pas. Tu vas me signaler. Merci. Alors, donc, comme j'étais en train de dire, donc nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 41, où Jésus dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. » Voyez-vous, là c'est Jésus qui parle. Il dit que l'enfer a été préparé pour les anges, et pour Satan et pour ses anges. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec attention parce que ce que je vais dire, ça serait important parce que vous risquez de vous perdre après. Alors, comment ces démons agissent-ils donc, en quelques lignes? Nous avons dit que l'homme est tripartite. Alors il y a des démons qui sont destinés à nuire les corps, à les pervertir. Et ces démons sont souvent auteurs de maladies. Il y a certaines maladies, frères et sœurs, qui, qui sont provoqués par des démons. Et nous allons les voir, nous l'avons vu avec Jésus qui a fait plusieurs fois, il a guéri des malades. Et certaines personnes, quand il guérissait les malades, à la place que ce soit la maladie qui parte, mais c'était un démon qui partait. Parce qu'il y a certaines maladies où c'est les démons qui a provoqué cela, vous voyez. Alors, souvent, ces maladies sont des maladies qui nous prennent toute notre vie. Ça pourrait être le sida, des trucs comme ça. Ça peut être aussi une maladie qui nous condamne. Donc, on est condamné, quoi. Et ça peut aussi être une maladie qui nous mènera à la mort. Il y a une maladie que nous appelons Bassou, mais ici, je pense, c'est l'ulcère des Burili. Une maladie qui, si vous allez, par exemple, dans mon pays, c'est souvent les sorciers qui font des choses, ils font des incantations. Et si tu es faible spirituellement, ils peuvent te l'envoyer, si bien que même les habitants ont commencé à croire que cette maladie est toujours à caractère spirituel, alors que c'est une maladie aussi normale. Parce que c'était une maladie que les sorciers utilisaient pour envoyer des démons, pour provoquer cela. Donc vous voyez que les démons agissent sur le corps et ils amènent le corps à la perversion. À la perversion du corps. À la perversion du corps et... Voilà, vous allez voir quelqu'un qui fait n'importe quoi avec son corps, il ne respecte pas son corps. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a un démon qui est en train de l'amener là. Et c'est en fait ça le rôle du démon. Quelqu'un qui était là et puis il se dénude comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Une personne qui aime souvent la saleté et tout. Ça peut être aussi l'influence des démons. Et dans l'âme, les démons s'attachent à l'âme. Ils viennent s'installer dans l'âme. Et quand ils viennent s'installer dans l'âme, nous avons dit que l'âme, c'est le centre des sentiments, des émotions. Les démons, quand ils viennent là, ils vont collaborer avec ton âme. En fait, les démons collaborent avec ton âme. Pourquoi ? Parce que je dis ça. Je veux que quelqu'un se retrouve. Parce que, des fois, on a des sentiments, on a envie de faire des choses. Mais derrière certains sentiments, peut se cacher les démons. Il y avait une sœur avec qui je priais. Elle aimait sortir. Elle disait, moi, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Je dois sortir. Mais le jour où on a eu à prier pour elle, on a compris que c'était un démon qui s'attachait à ces sentiments-là de sortir. En fait, ce n'était pas elle vraiment qui voulait sortir, mais c'était ce démon qui la poussait à sortir. Et quand elle sortait, elle allait commettre des péchés. Et en fait, les péchés attiraient encore d'autres démons. Donc, c'était la collaboration. Et... voilà, il y a certains démons qui peuvent te pousser, subitement comme ça, tu as des envies de suicide. Certaines personnes qui se suicident, rassurez-vous, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont dans le stress. C'est aussi un démon. Tu es là, et un esprit te dit, coupe-toi. Tu es là, et un esprit te dit, jette-toi. Toi, tu crois peut-être que c'est parce que tu as les regrets. Les démons viennent, ils profitent derrière ton regret, et ils en profitent. Et là, toi, tu dis, bon, je vais mourir. Et sans savoir que quand tu fais ça, tu commets un péché. Les démons amènent l'homme à la perversité, sexuelle. Et ce sont des choses qui se font. Et des fois, tu fais des choses sans pourtant savoir pourquoi tu les fais. Ça, il faut vraiment faire attention quand vous faites des choses, vous ne comprenez pas pourquoi je le fais. Bon, je le fais juste. C'est bien, mais attention, parce que ce genre de sentiments, souvent derrière, se cachent aussi les démons. Tu fais quelque chose, pourquoi tu l'as fait ? Non, je ne sais pas, je le fais simplement. Les démons viennent amplifier nos mauvais penchants. Tu as un mauvais penchant sur quelque chose. C'est un péché, bien sûr, et lui, il vient, il t'induit là. C'est ça le rôle du démon. Et sachez que les démons sont appelés dans la Bible comme étant les mouches. Et les mouches s'attachent toujours à quelque chose qui les attire, soit la saleté ou quelque chose de ce genre. Donc, quand tu as quelque chose qui attire l'ennemi, les diables, les démons, ils peuvent facilement t'atteindre. Et puis aussi, ils s'attachent dans l'esprit. Et dans l'esprit, c'est là les regrets, parce que quand les démons s'attachent à ton esprit, c'est difficile parce que il fait apparemment un avec ta personnalité. Comme ça, vous allez voir certaines personnes incrédules. Ils n'arrivent même pas à croire, même pas un peu. Moi, je me souviens, on est allé prier pour la petite sœur d'une de nos sœurs de la chorale. Il suffisait qu'elle dise le nom de Jésus. C'est là que j'ai compris que le nom de Jésus était difficile à prononcer. Dis Jésus. Elle n'arrive pas à dire Jésus. C'est un démon d'incrédulité qui ne voulait. Dis Jésus. Elle n'arrive pas. Elle dit je veux, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon dans son esprit. Et ces démons contrôlent son esprit, contrôlent son être. Et ces démons sont très dangereux. Ce sont des démons propres aux athées, souvent. Ce sont des démons propres aux occultistes, aux satanistes, à des courants des pensées diaboliques, des démons propres à l'incrédulité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, si toi tu as une incrédulité, tu n'aimes pas croire aux choses de Dieu, tout ça, attention. Je ne dis pas que tu as un démon, mais il se pourrait que tu puisses avoir un démon. Voilà. Et alors, parmi les sources d'entrée de ces derniers, nous avons les malédictions, les liens de sang, les vaines paroles. Les vaines paroles, j'aimerais être là, s'il vous plaît. Frères, sœurs, évitez les vaines paroles. Parce que vous pouvez être des dieux, mais un petit démon va s'attacher simplement à ces vaines paroles-là et va en faire, va en faire sien. Il y a éviter de dire à chaque fois, par exemple, je parle aux jeunes, tu as échoué peut-être à l'examen, tu n'as pas fait de bonnes notes, tu dis, je suis raté, moi, je n'arriverai pas, je suis bon à rien, mais moi. Ces petites paroles-là, cette petite parole que tu dis, tu prononces là, peuvent attirer un démon qui va simplement se charger de ces paroles-là et en fait bloquer ta vie sur ça. Et voilà, et tu vis comme ça, pourquoi? Parce que tu avais dit ainsi et tu avais prononcé ces paroles-là et les démons, ils s'est attaché à cela. Et par la musique, mais je ne vais pas trop entrer là, par la musique parce que la musique est capable d'emballer l'âme et l'esprit. La musique est quelque chose qui peut emballer l'âme et l'esprit, c'est avantageux pour Dieu, mais c'est avantageux aussi pour Satan. Parce que quand on emballe ton âme et ton esprit, voilà. Et alors, la musique est très importante. Je vais vous le prouver en quelques minutes dans la Bible, mais je ne vais pas lire les passages. Saul avait des démons qui le dérangeaient, des esprits méchants. Et qu'est-ce qu'on faisait pour que ces esprits partent? On jouait de l'arc, c'était la musique. Je vais donner un deuxième exemple. Le mur appelé le mur de Jéricho. Pour que ces murs s'écroulent, ils ont dû jouer de la musique. Troisièmement, lors de la garnison des prophètes, pour que les prophètes puissent prophétiser, on devait jouer de la musique. Quatrièmement, les prophètes chauves de la Bible, Élisée, on veut qu'ils prophétisent. Il dit, avant que je puisse prophétiser, amenez-moi l'harpe de la musique. Pourquoi simplement qu'on amène l'arc? Pourquoi simplement ça? Parce que la musique paie en même temps. Il y a la musique qui touche l'âme, voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a des chansons que nous chantons qui touchent l'âme. Par exemple, si je chante Joyeux anniversaire, je ne pense pas qu'il y aura un démon ou un ange qui viendra là derrière. Parce que ça, ce sont des musiques qui touchent l'âme. Mais il y a des musiques qui touchent l'âme et l'esprit. Tu es emporté, tu vois comme si tu vas mourir, tu commences à pleurer. Tu commences même à pleurer. Alors, il faut faire attention à cela parce que derrière ça, ça peut dépasser l'âme et avoir un démon derrière. Et moi, par exemple, j'ai eu cette grâce de participer dans des délivrances, dans des prières, d'intercession et tout. Et à certaines personnes, c'est un démon qui a été rattaché simplement au genre de musique qu'elle écoutait. Et peut-être cette personne a commencé à pécher. Cette personne est devenue impudique tout simplement parce qu'elle écoutait des musiques qui exhibaient l'impudicité. Vous voyez ça? Et voilà. Et même aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des chrétiennes qui veulent être sexy, qui veulent être comme ceci, comme cela. C'est souvent parce qu'il y a une attirance à la musique. Alors, toi qui écoutes la musique, moi, je te pose la question, quel genre de musique écoutes-tu et quels sont les esprits qui viennent derrière ces musiques que tu entends? Parce qu'il y a certains esprits qui t'empêcheront simplement de prier. Tu n'arrives pas à prier, mais tu écoutes une musique qui amène des démons qui t'empêcheront simplement de prier. Et quand on t'empêche de prier, on te prive de la respiration spirituelle. Et voilà, tu es en train de mourir spirituellement parce que tu ne sais pas parler à celui à qui tu as donné ta vie. Alors, jeunes frères, sœurs, faisons attention à cela. Mais aussi, les portes d'entrée des démons, c'est par la danse. La danse, ah oui, la danse. La danse, ah oui, la danse. Oui. Par exemple, certaines danses comme, je sais pas, les striptease, voilà. tu auras l'impudicité directe, sans je sais pas comment. Il y a certaines danses, moi je me rappelle qu'on était en train de nous apprendre la philosophie bantou. On nous disait que voilà, les bantous avaient l'habitude de danser. Et ces danses-là, les gestes qu'ils faisaient dans la danse, étaient en fait des messages à des esprits. Et voilà, c'était des communications, simplement par la danse. Alors il faut aussi faire très attention à cela, parce que tu peux communiquer sans le savoir. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Par des livres aussi. Parce que sachez, mes frères, s'il y a un livre saint, c'est qu'il y a des livres démoniaques. Si nous disons que la Bible est un livre saint, sachez qu'il y a des livres démoniaques. Et c'est une porte d'entrée pour les démons aussi. Alors, dans les passages que nous venons de lire, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils auront le pouvoir de chasser les démons. Frères et sœurs, c'est les miracles pour ceux qui auront cru. Ce ne sont pas les miracles pour les pasteurs. Ce ne sont pas les miracles pour les apôtres, mais ce sont les miracles pour ceux qui y auront cru. Moi, je me souviens, je vais témoigner, s'il y a des ados, ils ne sont pas là, malheureusement, ce n'est pas un problème, mais pour les jeunes. J'étais mineur. Je lisais ma Bible, j'ai lu dans ma Bible. On m'a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ok, d'accord. Je suis allé dans un lieu de prière et où il y avait une manifestation des démons. Voilà, j'ai pris cette parole, j'ai dit, bon, moi j'ai cru, je ne suis pas pasteur, je suis rien, j'étais mineur, je vous préviens, donc j'étais encore adolescent. J'ai pris et j'ai chassé les démons. Pourquoi ? Parce que la parole que nous lisons est vraie, cette parole, la parole de Dieu, la Bible, elle est vraie. Mais il suffit d'y croire. Frère, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, tu peux chasser les démons. N'aie pas peur des démons. Et d'ailleurs, les démons ne sont pas nos amis, en fait. Parce que dans des films, on commence à nous montrer des personnes qui sont comme des démons, qui sont des héros, ils viennent nous sauver. Les démons ne sont pas nos amis. Il faut déjà connaître ça. Mais aussi, il faut comprendre que tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Ainsi, je parle au nom de Jésus-Christ. S'il y a un démon ici, il sera chassé. Amen. Oui, parce que nous, des fois, nous croyons que quand nous venons ici, il ne peut pas y avoir des gens qui sont possédés. Non, c'est faux. Avant, l'église primitive, c'était quand quelqu'un croyait, il venait à l'église. Mais maintenant, c'est même ceux qui ne croyaient pas en leur appel, venaient. Donc, ils peuvent être là aussi, au milieu de nous. Tout à l'heure, quand on chantait, certains ne chantaient pas. Je progresse. Non, vous n'avez pas dit. Et voilà. C'est une porte de sortie. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Ce sont des mouches. Il faut les chasser. Les démons sont vraiment méchants, je vous assure. C'est terrible. Mais il faut aussi des fois, certains démons sortent par la confession. Tu as quelque chose que tu as gardé dans ton cœur. C'est ce qui fait que les démons résistent. Ces démons de méchanceté-là. Peut-être ta méchanceté, ce n'est plus une méchanceté, mais c'est un démon. Ton énervement-là, tu es toujours en colère. Toi, peut-être tu vois ça normal, mais c'est peut-être un démon qui est là derrière, qui est caché. Et peut-être il y a certains démons qui s'attachent à nous parce que nous avons des trucs que nous devons confesser. Il y a une sœur qui avait... Je la connaissais déjà. Une fois, on a eu à faire la délivrance. Là, moi, j'étais encore au début de l'intercession. Je suis venu là, il y avait des trucs de délivrance. Je vous dis, j'avais peur. Bon, ce n'était pas moi aussi, c'était Dieu qui m'avait appelé à l'intercession. Je n'avais pas demandé. Et alors, j'arrive là. C'était terrible. Nous étions dehors parce qu'ils avaient l'habitude, quand ils priaient à l'intérieur, nous, ils fermaient la porte. Nous, on était dehors. Alors, nous étions dehors. Les démons commençaient à attaquer. Nous qui étions dehors, nous sommes entrés à l'intérieur. Et c'était terrible, la sœur en question. Mais quelques années plus tard, elle va encore quitter l'église. On ne va plus savoir où elle était allée. Et après quelques années, elle va revenir comme ça. Je vais causer avec elle. Et alors là, c'était pire. Sachez que la Bible dit que quand un démon sort, il amène cet autre. Alors, donc, c'était pire que ça. Et un jour, nous causons comme d'habitude, comme je cause avec mes amis. Et on va parler de Dieu. Je ne savais pas pourquoi elle me posait certaines questions. Mais heureusement pour moi, j'étais en train de répondre selon qu'il est écrit. Et après, elle va me dire, Israël, vraiment, tes paroles m'ont touché et tout, j'ai besoin de changer, des trucs comme ça. Je lui dis, l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui, demande-lui de confesser certains péchés. Et là, elle va confesser certaines choses. Et c'est après qu'elle va avoir sa délivrance, parce qu'elle devait d'abord confesser. Et je vous assure, c'était terrible. Je me rappelle même qu'on était allés, on voulait chasser entre nous les jeunes, on voulait chasser ces démons, on s'est dit non, on va aller chez les pasteurs. On l'amène chez le pasteur. Ils ont fini de causer avec le pasteur. croyant que c'est le pasteur qui va s'occuper, le pasteur vient et dit, bon, les jeunes, vous allez prier pour la sœur. On était là, voir. Mais Dieu avait fait grâce, on a pu chasser ces démons. Alors, sachez ceci, frères et sœurs. Les démons ont pour mission de détourner un bon chemin, un homme qui croit en Jésus. Les démons ont pour mission de détourner cet homme du bon chemin, car leur mission principale est de nous amener dans la gêne. Les démons, c'est vrai, ils peuvent aussi bloquer certaines choses dans nos vies. Mais tu peux être riche, mais voilà, tu as des démons. Parce qu'il n'y a pas que des démons de blocage, comme nous le croyons. Un riche intellectuel, mais tu as des démons. Pourquoi je dis ça? Parce que qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Et qui est contre Jésus est pour les démons. Nous allons les lire dans Matthieu chapitre 12, le verset 30. Il est écrit, Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toi tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne comprends même pas les choses de Dieu. Tu ne t'intéresses pas à ça. Sache ceci. Qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Alors, il n'existe pas d'intermédiaire disant que, bon, moi je suis avec Satan, je suis aussi avec Jésus, ou bien moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Si d'office tu es ni pour l'un ni pour l'autre, sache que tu es pour Satan. Et après ta mort, ce qui t'attend, ce n'est que la gêne. Ce n'est que le feu éternel. Parce que qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Et nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 8, le verset 44, où il est écrit, « Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Voyez-vous ? « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Et dans Apocalypse 3, 16, il est écrit, « Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai de ma bouche. Frères et sœurs, tu es là, tu es ici, tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas donné peut-être ta vie au Seigneur Jésus. Sache ceci, il n'y a pas d'intermédiaire. Un jour tu mourras et après la mort il y aura un jugement. Et dans ce jugement, toi ton sort serait d'aller en enfer. Et je vous assure, peut-être on nous fait croire que non, en enfer ce sera bien, il y aura les superstars que nous voyons, tout ça. Attendez, vous allez voir. Eux-mêmes vont souffrir et vous aussi, vous allez souffrir. Alors, frères et sœurs, si tu es sans position, aujourd'hui, je viens te présenter Jésus et nous allons voir comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et la grande délivrance, c'est de connaître toutes ces choses, c'est de décider de recevoir Jésus dans sa vie. Car il est dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, je vais lire, je pense que je n'avais pas écrit ça, désolé. Et Jean chapitre 8, verset 36, où il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si réellement vous connaissez les fils, vous deviendrez réellement libre. Libre de toutes choses, libre de tout péché. Alors, je t'incite, je suis en train de te demander vraiment, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, n'hésite pas. Même si tu ne connais rien, même si tu... Voilà, n'hésite pas. C'est très important, frères et sœurs. Alors, c'est le premier miracle qui nous est donné. Ils chasseront les démons. Mais j'aimerais passer au tout dernier où il est écrit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Après ces messages, je vais prier pour les malades et les malades seront guéris. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris. Je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris. Il y a la guérison qu'on appelle la guérison instantanée, la guérison progressive. La guérison instantanée, c'est cette guérison à l'immédiat. C'est vraiment ce que Jésus opérait. Jésus, quand il opérait dans des guérisons immédiates. Donc, quand il te dit, lève-toi et marche, tu te lèves et tu marches. Quand il te dit ceci, voilà. Mais il y a aussi des guérisons progressives. C'est toujours Dieu, c'est le même Dieu qui prend son temps. Donc, il y a des guérisons progressives où il faut, à force des prières, la personne va être guérie. Et dernièrement, j'ai eu à entendre qu'il y avait un de nos frères qui a pu se lever. Et ça, c'est une guérison qui s'est faite progressivement suite à nos prières, et voilà, Dieu a fait un miracle. Et une fois, il est arrivé à Jésus de faire cette guérison, mais ça n'a pas pris trop de temps. Il est allé vers un aveugle, l'aveugle ne voyait pas. Il va faire la première chose. Il dit, tu vois? L'aveugle dit, non, c'est un peu flou. Et puis, il va encore refaire une deuxième fois. Et c'est après qu'il va voir. Et même, ça arrive aussi même quand vous voulez prier pour... Parce que je vous ai dit que c'est tout chrétien qui peut guérir les malades, qui peut prier pour que les malades soient guéris. Alors, il peut vous arriver de prier pour un malade pour une première fois. Et ça, il n'y a rien. Insistez peut-être pour une deuxième fois et vous verrez quelque chose. Alors, pour opérer dans la guérison divine ou recevoir une guérison divine, il faut vouloir la guérison premièrement. Il faut vouloir la guérison. Deuxièmement, il faut que la personne qui prie s'attende à la guérison. Il doit vouloir la guérison. Et troisièmement, il faut aussi avoir la foi. Ce sont des points que j'ai pris. Il faut vouloir la guérison. La Bible nous dit que l'exemple de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang voulait sa guérison. Ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang. C'est elle-même, en quelque sorte, qui s'est guérie par sa foi parce qu'elle voulait sa guérison. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je vais prier pour les malades. Et si tu es malade ou tu as quelqu'un qui est malade, alors il faut vouloir cette guérison-là et accepter cette guérison-là et la main de Dieu sera vraiment sur toi. Et l'exemple de la femme cananéenne, nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 15, verset 28, où il est dit, « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voyez-vous, Jésus dit, « Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Donc c'est la femme qui voulait. Et Jésus dit simplement, qu'il te soit fait comme tu le veux. Voyez. Et quand vous vous attendez à la guérison, il faut vraiment s'attendre à cela parce que Dieu peut simplement voir votre vouloir et vous accorder la guérison divine. Et il faut aussi que la personne qui prie, c'est-à-dire quand vous priez pour un malade, il faut vous-même aussi vouloir sa guérison. Parce que si vous-même vous êtes là, ça ne va pas aller. Il faut vouloir sa guérison. Je vais vous donner un témoignage vite fait, mais je vais lire d'abord pour Matthieu 8, 2 à 3, où il s'agit d'un lépreux qui dit, Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre parce que Jésus le voulait. Et c'est important de vouloir cela. Et troisièmement, il faut avoir la foi, frères et sœurs. Dans nos églises, nous avons maintenant la raison, nous pensons trop, nous connaissons trop la médecine, tu vois, c'est impossible, il faut 2 semaines. Après 2 semaines, il faut qu'on suive un peu les pansements et tout le reste. Des fois, c'est bien, mais des fois, il faut comprendre que nous avons un pouvoir au nom de Jésus, c'est que nous pouvons guérir les malades. Alors des fois, quand les choses ne vont pas bien, à la place de mettre la raison, mettez la foi. Non, ma maladie, on a dit que c'est une maladie, voilà, c'est une maladie peut-être, je ne sais pas, auto-immune, c'est une maladie peut-être dévastatrice, c'est, voilà. Mais il faut toujours y mettre de la foi. Même si on a déjà eu à prier pour toi, il faut toujours y mettre la foi, c'est très important. Et plusieurs fois dans la Bible, on a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu parce que c'est vrai parce que rien n'est impossible à Dieu. Un jour, je vais aller prier pour un frère qui était malade. Je vais aller prier pour un frère qui était malade. Il n'arrivait pas à dormir toute la nuit et tout le reste, voilà. Je vais faire une petite prière et puis je vais dire, ok, d'accord, c'est bon. Je n'avais rien vu, je n'avais rien senti. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon, tu es guéri. C'était simplement la foi. Et les jours suivants, il me dit qu'il n'a pas pu, il n'a pu rien senti. Il a pu dormir et voilà, il a été guéri facilement. Et un jour, il y a une sœur qui m'a appelé, frère Israël, il y a ma cousine qui, il y a une semaine, elle est devenue folle. Elle était devenue folle. On l'a enchaînée, tout ça. J'étais encore mineur. On l'a enchaînée et tout, voilà. Et moi, j'ai dit, ok, d'accord, on ira là-bas. J'appelle l'équipe d'intercession. Ils fuient tous. Il reste seulement 3 personnes qui vont venir avec moi. Et on prie la première fois. On va calmer simplement la personne de sa folie et on va revenir la deuxième fois et là elle va maintenant parler et puis la troisième fois elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus les malades seront guéris. Tu peux opérer dans la guérison parce que tu crois au Seigneur Jésus et tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et pour cette personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus, il suffit que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et que tu crois, tu vas opérer dans la guérison, tu vas aller, tu vas prier pour ta mère, que tu aimes tant, qui est peut-être malade, pour tes frères qui sont malades, tu prieras et ils seront guéris. Alors, je vais aller un peu vite. Alors, dans ce même passage, on nous parle, si on pourrait remettre le passage de Marc chapitre 16, les versets 15 à 18. Je parlais du salut. Voilà ici, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continuez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frères et sœurs, sachez ceci. Tu n'as rien à perdre si tu crois. Parce que s'il y a une vie après la mort et que toi, tu n'as pas cru, imagine un peu ton sort. Mais on te dit quelque chose de simple. Il faut simplement croire. Et c'est tellement bon pour ces personnes qui ont eu à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, parce qu'un jour, ils seront dans la gloire. Voilà. Dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 12, il est écrit, « La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais c'est par la volonté de Dieu. » Ici, je parle du salut, frère. Ces miracles peuvent nous accompagner si et seulement si nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Voyez-vous? Et le salut est individuel. Ça ne dépend pas de la famille. J'aimerais parler aux jeunes chrétiens. Jeunes chrétiens, si je pourrais t'appeler ainsi, tu es né dans une famille chrétienne. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Naître dans une famille chrétienne ne veut pas dire être enfant de Dieu. Quand on est à l'écodime, encore dans les trucs comme ça, on nous dit ça, oui, c'est vrai. On est sous la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais il y a un moment où tu dois recevoir Jésus toi-même. Tu dois croire et recevoir Jésus en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que souvent, nous croyons que comme la maison, nous sommes, ce n'est pas en fait du judaïsme où il suffit de la circoncision pour être peuple de Dieu. Ici, il s'agit de croire. Tu dois croire toi-même de tout ton cœur et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui es né dans une famille chrétienne, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ personnellement? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ personnellement? Parce que nous avons des païens à l'église croyant que ce sont des enfants de Dieu alors que ce sont des païens. Des païens, mais dans des familles chrétiennes. Alors, il est important que je le dise. Parce qu'ici, on nous dit que ce n'est ni par la volonté de l'homme, pas de papa, pas de maman, pas de la famille, encore moins du pasteur, ni de la volonté du sang, mais c'est la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui dois croire et recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. C'est important, frères et sœurs. Un jour, tu mourras, frères et sœurs. Un jour, tu mourras, tu vieilliras et puis tu mourras. Mais sache qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu vives une vie agréable, une belle vie après ta mort. Parce que le monde passera, tu mourras, tu vieilliras, tout ça, tout ce que nous... Les stars, il y a eu des gens qui avaient l'argent et tout. Mais tout ça passera. Mais tu seras condamné si tu ne crois pas. Dans les passages de Marc, tu seras condamné si tu ne crois pas. C'est important. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il suffit simplement d'ouvrir la porte, il entre. Alors, sachez ceci, je vais bientôt finir. Sachez ceci, dans les livres que nous venons de lire de Marc chapitre 16, les versets 15 à 18, notez bien qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Je vais m'arrêter sur croire. Dans croire, il y a deux choses. Il y a croire et recevoir. À chaque fois qu'on parle de croire, on associe recevoir. Voilà pourquoi je vous ai parlé du passage de Jean chapitre 1, verset 12, où il est dit que celui qui va recevoir et qui va croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui deviendra enfant de Dieu. Ne te limite pas simplement à croire. Parce que croire, quand on dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe, Jésus frappe. Quand tu crois, tu ouvres la porte, mais cela ne veut pas dire que tu l'as reçu. Parce que tu peux ouvrir la porte, puis refermer. Mais quand tu ouvres la porte, c'est-à-dire quand tu crois, tu as ouvert ta porte, tu dois maintenant recevoir pour qu'il entre. Voyez-vous, il y a deux actions qui se passent là, croire et recevoir, et puis être baptisé. On est baptisé après avoir cru et reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Alors j'aimerais dire quelque chose ici. Souvent dans nos églises, il y a des personnes qui se sont rattachées au baptême qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. C'est bien, tu avais eu un baptême quand tu étais enfant, tu étais sous la grâce de Dieu. Mais sache que il faut que tu croies et que tu sois baptisé. Tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ et recevoir ton baptême. Et ce n'est pas un péché de recevoir un autre baptême parce qu'il y a eu les disciples de Jean qui ont eu à recevoir un autre baptême, malgré qu'ils avaient reçu le baptême de Jean qui était aussi bon. Mais Pierre dit, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit non, nous avons reçu le baptême de Jean. Et puis il leur dit non, vous devez recevoir le baptême au nom de Jésus. Alors il faut savoir que quand maintenant tu es capable de croire et de recevoir Jésus, il faut que tu te fasses baptiser. Parce qu'il y a des personnes aussi dans l'église qui refusent d'être baptisées. Moi, par exemple, j'avais cru il y a longtemps, mais pour me baptiser, c'est un problème. Donc, c'est très important, ces points aussi, d'être baptisé, de recevoir Jésus. Et voilà, qu'est-ce qui se passe après? Quand tu reçois Jésus, j'aimerais maintenant finir par ces quelques mots. Quand tu reçois Jésus comme tu crois en Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a un processus qui va se passer en toi. On appelle ça la nouvelle naissance. Tu vas naître de nouveau. Tu vas naître de nouveau. Amen. Il y aura un processus de la nouvelle naissance. Et ces processus te manifestent, les signes de la nouvelle naissance sont: tu auras l'amour de Dieu, tu auras l'amour de la prière, il y aura l'abandon des œuvres mortes, tu auras l'amour de la parole, tu auras l'amour de la parole et le Saint-Esprit va attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. As-tu l'amour de la prière? As-tu l'amour de Dieu? Est-ce que tu as l'abandon des œuvres mortes? L'abandon de tout ce qui est péché, tout ce qui est impudicité, où tu peux te rencontrer avec ton copain ou ta copine sans pourtant faire d'autres choses. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta vie? Si cela ne se passe pas encore dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore reçu les conséquences de la nouvelle naissance, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors je t'invite, frères et sœurs, je t'invite, toi qui m'écoutes en ces moments, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu vivras une vie agréable et tu pourras, après l'au-delà, te dire, voilà, j'ai combattu les bons combats sur la terre et voilà, je suis dans un lieu qui est paisible, frères et sœurs. La nouvelle naissance, tu peux naître de nouveau, c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire, naître de nouveau. Souvent, nous ne comprenons pas naître de nouveau, c'est quoi? Dans Jean chapitre 3, c'est là où il est parlé parce que c'est Nicodème. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Je vais expliquer. Quand tu nais parce qu'il y a eu une fécondation entre papa et maman. Maintenant, pour être enfant de Dieu, il faut qu'il y ait une fécondation entre l'eau et l'esprit. L'eau symbolise la parole et l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint s'accorde avec la parole, il y a création. Voilà pourquoi vous allez voir, l'ange va venir vers Marie et va dire. L'ange va dire la parole de Dieu par rapport à Marie. Marie va croire et recevoir cette parole et le Saint-Esprit viendra et il y aura conception. Parce que l'Esprit et la parole créent. Voilà pourquoi il est écrit qu'au commencement, l'Esprit est en train de mouver sur l'eau et quand Dieu dit la parole de Dieu et l'Esprit qui mouvait sur l'eau, il y a eu création. Amen. Vous ne me croyez pas? Voilà pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que tu es une nouvelle création. En fait, quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle création, mais dans un corps ancien. C'est ce qui est incompréhensible dans la tête, mais c'est ce qui est en fait génial. Tu es une nouvelle personne, mais dans un visage ancien. Voyez-vous, tu deviens quelqu'un de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il n'y a même pas de nouveau. Tu ne forceras pas, tu vas commencer à aimer Dieu. Tu ne forceras pas, tu auras l'envie de prier. Tu ne forceras pas, tu vas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Mais c'est simple, pour naître de nouveau, il suffit simplement de croire et de recevoir. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ par la prière du salut. Et c'est simple. Et tu vas naître de nouveau. Tu deviendras enfant de Dieu, racheté de Dieu. Et quand on te posera la question, comment tu as pu croire à ces histoires bêtes? Comment tu as pu croire à ces histoires? Tu répondras simplement, la Vierge a eu à enfanter. Comme la Vierge a eu à enfanter parce que la parole et l'Esprit ont créé en elle quelque chose. Moi aussi, la parole qu'on m'avait prêchée, je l'ai reçue et le Saint-Esprit est venu en moi. Et voilà, je crois en ces histoires-là. Ainsi, quand tu crois en ces histoires, tu es un miracle, frère. Parce que tu crois que par la parole de Dieu que tu as reçue et le Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature dans un monde ancien. Voilà pourquoi il est dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons la nature divine en nous. Ainsi, nous-mêmes, nous sommes un miracle. Comme nous sommes un miracle, c'est que nous pouvons faire des miracles. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Christ seul me suffit. J'aimerais que nous prions pendant ces quelques temps. Nous allons prier pendant quelques temps. Et ces paroles, j'ai dit, j'aimerais que nous prions pendant quelques temps et j'aimerais que nous fermions nos yeux pour que nous puissions prier, nous concentrer, voir le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, un jour Jésus reviendra, je vous assure. Et qu'est-ce qu'il trouvera en nous? Et s'il arrivait que tu mourrais, est-ce que tu es en ordre avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu ne vis pas dans l'impudicité? Est-ce que tu ne vis pas dans ce qui est mauvais? Est-ce que tu crois d'abord au Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est simple et facile. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Et tu auras la garantie. Parce que ce monde ici, avec la COVID et tout le reste, ce n'est pas un monde où il faut faire confiance. Un jour, tu mourras et tu laisseras les biens. Tu laisseras les personnes que tu aimes, ton père, ta mère, tous ces gens-là, tu les laisseras. Même la science dont tu es en train de chercher à connaître là, tu laisseras cette science. Il y a eu des hommes qui ont commencé ça. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été ressuscité des morts et tu auras la vie éternelle à l'au-delà. Christ seul me suffit. Christ. J'aimerais que tu te concentres pendant quelques minutes. Il y aura une atmosphère qui va se dérouler ici. Pendant quelques minutes, ces petites minutes simplement. J'ai besoin étant toi. J'aimerais que vraiment vous ayez les yeux fermés pour que vous puissiez mieux vous concentrer. Et afin que vous ne soyez pas distrait. Christ seul me suffit. Christ. J'aimerais que tu réalises la présence de Dieu maintenant. J'aimerais que tu réalises la présence de Dieu maintenant. On a quelques minutes, juste quelques minutes. Mais ça peut être ces minutes qui seront glorieux, magnifiques. Glorieux et magnifiques. Glorieux et magnifiques.
Oh Christ, seul me suffit. Christ, seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.
Frère et sœur, j'aimerais là où tu es que tu puisses réaliser la présence de Dieu. Là où tu es, avec tes yeux fermés, rends grâce à Dieu simplement. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Je t'assure, il est plus réel et plus présent que l'oxygène que nous pouvons respirer. Il est plus réel et plus présent. Les jours où j'ai failli douter de lui, il m'a montré qu'il était réellement présent. Frères et sœurs,
Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin
dans mon cœur.
Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, pour toujours.
Toujours nos yeux fermés. J'aimerais faire un appel. Frères et sœurs, moi je parlais. Un jour, je me suis acquitté de cette charge parce qu'un jour le Seigneur dira, Israël, tu pouvais dire à ces gens, tu pouvais dire à telle personne que de donner sa vie à Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus, elle ne comprend pas les choses de Dieu. Tu pouvais lui dire. Tu pouvais montrer à cette personne que voilà comment on fait. Mais tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, c'est ça que j'étais. En fait, les messages, c'était pour te dire que Jésus est réel et qu'il veut de toi. Et tu feras même des miracles. Et il fera même des miracles dans ta vie. Alors, si peut-être tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour une vie peut-être glorieuse demain, tu pourras juste lever ta petite main. Ta petite main, on fera une petite prière. Ça sera seulement une petite prière. Et toi-même, tu verras après. Tu verras après ce qui suivra. Tu es là et tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Et tu aimerais recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu aimerais qu'il marche avec toi, qu'il te dirige. Lève simplement ta petite main. La Bible dit, si vous avez entendu la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre foi. Parce qu'un jour à un autre, frères et sœurs, un jour à un autre, on se rencontrera face à notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Tu diras que non, je ne t'avais jamais connu. Il te dira, mais je t'avais parlé ce jour-là pour que tu puisses me recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu avais refusé, tu t'es endurci, tu as entendu ton cœur, tu n'as pas voulu. Alors, frères et sœurs, j'insiste, si tu es là, présent, et que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu aimerais le faire, lève juste ta petite main, et nous allons prier. Lève juste ta petite main, j'aimerais te voir, et s'il y a moyen, tu pourras te lever pour que nous puissions prier. Si tu es là, tu pourras te lever pour que nous puissions prier. Et s'il y a des rétrogrades dans la salle, tu as rétrogradé, ta vie de prière n'est plus vraiment bonne, tu n'arrives pas à prier toi-même, il y a des choses qui ne vont pas bien, alors j'aimerais aussi là où tu es, tu t'élèves, nous allons prier avec toi. Tu sens que tu n'es plus en forme spirituellement, tu n'arrives pas peut-être à prier comme tu priais d'habitude. Tu es toi-même, peut-être chez toi ou je ne sais pas comment, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu. J'aimerais simplement que tu t'élèves et tu t'élèves là où tu es simplement et nous allons faire simplement la prière. Père éternel, Dieu de grâce, je prie, Seigneur, pour tout un chacun de nous, pour tout un chacun de mes frères et de mes sœurs, Père éternel. Père éternel, toi qui connais, Seigneur, la vie, Seigneur, de ces personnes, Seigneur, donne la force, Seigneur. Donne la force, Seigneur, et la capacité, Seigneur, de te croire. Que, Seigneur, ces paroles, Seigneur, dont j'ai prononcé, Père éternel, poursuivent leur vie. Seigneur, donne-leur la force de prier. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, de lire ta parole. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit avec eux. Dirige-les, conduis-les, Père éternel, Dieu de grâce. Aide-leur, Seigneur, dans leur marche, Seigneur. Je prie pour Seigneur Jésus-Christ, pour mes frères et sœurs, Père éternel, qui ne t'ont jamais reçu. Père éternel, Dieu de grâce, moi je fais ma part. Toi, Seigneur Jésus-Christ, occupe-toi d'eux, Seigneur. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Vois ces frères, vois cette sœur, vois cet homme, Seigneur, qui, Seigneur, du fond de son cœur, veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de grâce, je prie à ce que ton esprit, Seigneur, fasse, Seigneur, son esprit ta demeure, Père éternel. Que tu fasses, Seigneur, de son esprit ta demeure et que tu sois, Seigneur, avec elle, cette personne, Père éternel. Laisse que, Père éternel, Dieu de grâce, tu le combles de bienfaits comme tu sais très bien le faire. Et Père éternel, je prie pour, Seigneur, les malades. Toute personne qui est malade ici, Père éternel, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, peu importe cette maladie, éternel mon Dieu. Il est écrit dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, où on peut guérir de toutes les maladies. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, s'il y avait quelqu'un qui était malade ici, au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives ta guérison, 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 peu importe le nom de la maladie, peu importe le temps de la maladie, peu importe que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et si tu as des frères et si tu as des sœurs qui étaient malades, quand tu rentreras, ils iront bien. Je proclame et je déclare au nom de Jésus, là où il y avait la maladie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes connaissances, quand tu vas sortir de ces lieux, quand tu vas rentrer chez toi, ces personnes seront guéries. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison divine. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison divine. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison divine. Et s'il y avait des esprits qui étaient en train de t'empêcher d'entrer dans les saints des saints, s'il y avait des esprits qui t'empêchaient de travailler dans l'œuvre de Dieu, s'il y avait des esprits qui t'empêchaient de faire quoi que ce soit, je prie au nom de Jésus que ces esprits qui est en train de te nuire puissent te quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que tu reçoives la totale délivrance. Je parle et je prophétise que cette parole que j'ai sortie de ma bouche te poursuive là où tu iras, partout où tu iras, que ça retentisse dans ta tête, afin que tu comprennes que Jésus est Dieu. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oh Christ, ça me suffit, Christ, ça me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, seul me suffit. Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin
de mon cœur.
Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour
dans cette attitude de prière et nous avons